Chaque matin avec Jésus, je me lève en souriant. Des soucis, je n'en ai plus. Avec Jésus, je vais de l'avant. La vie, c'est si merveilleux. Je suis tous les jours heureux. La prospérité est là. La santé est avec moi. Son espoir est dans mon cœur. Je connais le vrai bonheur. Lève-toi pour chanter avec moi. Chaque matin avec Jésus, je me lève en souriant. Des soucis, je n'en ai plus. Avec Jésus, je vais de l'avant. La vie, c'est si merveilleux. Je suis tous les jours heureux. La prospérité est là. La santé est avec moi. Son espoir est en mon cœur. Je connais le vrai bonheur. Lève-toi pour chanter avec moi. Amen. Tout le monde va bien ce matin? On mettra des bronzes, du laiton. Non, ça va, il ne faut rien bouger. Il paraît que rien que pour la bande, vous savez, en haut là, c'est 3 heures de travail. C'est fou, hein? Alors vous imaginez le reste? Oh là, quelle patience. Que Dieu te bénisse pour ton travail. Ecclésiaste 8:15 ce matin. On a une pensée pour nos frères qui ne sont pas là, nos sœurs qui ne sont pas là, les ados. On est content pour Esther qui a passé son quoi déjà son...
Elle est admise en BTS.
Elle est admise en BTS. BTS, ça veut dire quoi? Ouh là là, brevet technicien supérieur, formidable. Enfin, elle est très contente, ses parents aussi, et on remercie Dieu, c'est bien. On a des gens qui font de belles choses. Ecclésiaste 8:15. J'ai fait l'éloge de la joie. Parce qu'il n'y a rien de bon pour l'homme sous le soleil. Ouh là là, si on s'arrête là, c'est l'horreur. J'ai fait l'éloge de la joie, parce qu'il n'y a rien de bon pour l'homme sous le soleil, sinon de manger. Au cost. De manger, même partout, pas partout, non. À la communauté, par exemple, on mange très bien. Est-ce que vous trouvez qu'on mange très bien?
Alors on applaudit ceux qui font la cuisine.
De boire la bonne eau du robinet, c'est ça? Oui, mais aussi de temps en temps du bon vin, du bon champagne, et tout à l'heure l'apéro. C'est dommage, hein, pour ceux qui sont légalistes et qui nous écoutent. Tout de suite, ils se disent, ah, ces gens sont charnels, et ils vont arrêter d'écouter. Comme ça, ça fait un tri. Nous, on aime bien manger, boire et se réjouir. On aime bien se réjouir. C'est là ce qui doit l'accompagner dans son travail. Pendant les jours de la vie que Dieu lui donne sous le soleil et même sous la pluie. Parce que par ici, le soleil... Vous avez remarqué, depuis 2 jours, on dirait que le printemps s'est réveillé. Vous avez remarqué? C'est bien, on est parti pour 2 jours. Oh non, j'espère que ça va aller maintenant. Donc voilà, j'ai fait l'éloge de la joie parce qu'il n'y a rien de bon pour l'homme sous le soleil, sinon de manger, de boire, de se réjouir. C'est là ce qu'il doit l'accompagner dans son travail pendant tous les jours de sa vie que Dieu lui donne sous le soleil, c'est-à-dire manger, boire et se réjouir. Mon père, il avait acheté une assiette, il l'avait mise dans la salle à manger, au mur, c'était écrit « Aime, mange, bois, on ne vit qu'une fois ». Oui, sur cette terre, heureusement qu'on ne vit qu'une fois. Dire qu'il y en a qui croient à la réincarnation, mais quelle horreur! Ça ne leur suffit pas de venir une fois. Quelle horreur! Bon, vous pouvez vous asseoir, professeur. C'est comme pour ceux qui pensent qu'ils descendent du singe. Eux, peut-être, pas nous. Ils croient à la réincarnation, pour eux peut-être, mais pas nous. Ah non, non, moi je ne crois pas des choses comme ça. Notre vocation dans l'Église de Jésus-Christ, notre vocation communautaire, est nous confère une mission. Et cette vocation nous invite, c'est une invitation obligatoire, à participer à la tâche unique de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Moi, depuis que je suis né de nouveau, c'était en 68, j'ai été mis en contact avec les livres de T.L. Osborne, et il disait, le travail que Dieu aime le plus, c'est l'évangélisation. Sauver des âmes, gagneur d'âmes. Et ça, c'était il y a donc presque, attendez voir, ça fait combien, 30, bientôt 40. Eh bien, on l'a revu il n'y a pas longtemps, et il dit toujours la même chose. Toujours la même chose. Et un jour, j'ai rencontré deux hommes d'affaires chrétiens qui discutaient dans leur Mercedes et qui disaient, il radote, il dit toujours la même chose. Et il s'attache à son ministère. Notre vocation communautaire, notre vocation dans l'Église de Jésus-Christ nous confère une mission et nous invite à participer à la tâche unique de l'Église de Jésus-Christ, c'est porter témoignage de Jésus-Christ devant les gens et de ramener tout à Dieu. C'est vrai? Amen! Comme il dit chez le frère Alexandre. Pour ceux qui ne connaissent pas, voilà, vous qui nous écoutez sur Internet, dimanche passé, nous étions dans une église et il disait Amen! Mais ils étaient combien? 200? Ouh là là! Alors, je disais des choses, n'importe quoi. Par exemple, aujourd'hui, il ne fait pas très beau. Amen! C'était infernal. Mais voilà, c'est leur tradition. C'est leur tradition. Ah, mais ça nous a fait un peu rire. Ils nous font tellement rire. Voilà le sens de notre existence. Ça doit être une conviction. Et mes frères et sœurs, une conviction, ça ne nous est pas imposé par le Saint-Esprit, ça ne nous est pas imposé par les prédications, ça ne nous est pas imposé. Une conviction, c'est quelque chose qui se travaille. C'est quelque chose qu'on acquiert soi-même. On bûche une conviction. On travaille, on modèle une conviction. Une révélation, c'est quelque chose qui nous est imposé par Dieu. C'est un éclairage. Et alors, oh, voilà. Mais une conviction, c'est autre chose. La parole de Dieu vient au prophète, la révélation vient au prophète, il la donne aux gens qui doivent maintenant construire une conviction. D'accord ? C'est comme ça. C'est comme ça. Maintenant, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas avoir de révélation. Mais dans, bah bien sûr, vous pouvez avoir des révélations. Mais dans l'ordre établi des choses, normalement, c'est comme ça que ça se passe. La révélation vient au porteur d'eau, celui qui porte la parole. Et puis ensuite, les gens, ils entendent et ils se forgent eux-mêmes une conviction. Ou ils disent non, je ne veux pas. C'est comme ils veulent. Presque. Une conviction, le sens de notre existence, ça doit être donc l'évangélisation, porter Jésus-Christ, faire connaître Jésus-Christ, c'est une conviction qui doit être basée sur une foi absolue dans la parole de Dieu. Donc, cette conviction, elle doit être travaillée avec la parole de Dieu. Elle ne doit pas être simplement travaillée pour un intérêt. Par exemple, vous avez des gens qui prêchent l'évangile par intérêt. Ce n'est pas ça, c'est la parole de Dieu. Un caractère de disciples se forme des convictions qu'il établit dans sa raison. Dans sa raison. Il doit pouvoir dire pourquoi, comment. Parce que votre raison d'être en Jésus-Christ, c'est de faire connaître Jésus-Christ. On en revient toujours là. On bavarde, on raconte ci, on raconte ça. On dit des tas de choses. Les gens vous connaissent. Pourquoi ? Parce que vous parlez de ceci ou de cela, parce que vous avez un point d'intérêt commun avec eux. Non, ils doivent vous connaître parce que vous portez Jésus-Christ. Vous témoignez de Jésus-Christ en parole, en action. Voilà, ça c'est le sens réel de votre vie. Et si vous êtes frustré dans votre vie, c'est parce qu'il y a ça qui manque. C'est, la réa- c'est notre réalité terrestre. C'est pourquoi Dieu nous laisse là. Si on a ça gravé en nous, si on grave ça en nous, c'est nous qui devons graver ça en nous, dans notre foi, dans notre raison, eh bien tous les faits, tous les événements vont occuper leur véritable place. Regardez, par exemple, je suis allé avec Philippe au Burkina, et puis, je ne sais plus pourquoi, je crois que j'étais roué, ou je ne savais pas ce qu'il y avait, un machin et tout. Je lui dis, mais vas-y, prêche. Et il n'avait jamais prêché. Il a prêché. Des gens ont été sauvés. Il a recommencé, et ça a continué. Et des gens ont été guéris. Et maintenant, ben, c'est devenu une telle joie qu'il y va chaque année. Pourquoi ? Parce que, quand on se met à faire ce que Dieu veut, ce que Dieu aime le plus au monde, mais on en tire une joie. Et c'est ça que j'aimerais que vous connaissiez tous. Et vous pouvez tous le faire. Peut-être pas prendre un micro devant 4000 personnes la première fois, mais commencez par exemple dans votre famille, sur votre lieu de travail. On va étudier ces choses. Nous comprenons, quand nous nous lançons là-dedans, où le Seigneur veut nous conduire. Regardez, par exemple, lui, eh ben, il a prêché, il a vu que des gens étaient sauvés, que des gens étaient guéris, mais que humainement, ils pouvaient aussi faire des choses. Eh bien, il les fait. Là, Isabelle et Marie-Claire vont y aller. Elles vont certainement témoigner, peut-être prêcher aussi. On va voir ce qu'il va leur faire faire avec Nicolas, là-bas. Et puis, elles vont aussi voir, parce qu'elles ont des regards de femmes, elles vont voir d'autres choses encore. Et c'est, on est pris là-dedans. Et c'est bon. Nous comprenons où le Seigneur veut nous conduire à partir du moment où on commence à marcher dans le sens où Jésus veut que nous marchions. Dans le sens de porter Jésus-Christ aux autres, de leur faire connaître. Et puis alors, quand on a fait ce pas, on ne se fait plus prier ni par lui, ni par le porteur d'eau pour accomplir notre tâche avec zèle, sans murmure et sans hésitation. Moi, j'étais souvent là-bas, alors que ma mère était mourante, je me disais, chaque fois que le téléphone sonnait, je sursautais, je me disais, ça y est, on va me dire qu'elle est décédée. J'aurais pu dire, bon, ben, Seigneur, pousse, j'y vais pas, j'attends, je reste. Non. Non. Premièrement, Dieu servit. Frères et sœurs, ça ne veut pas dire que je ne m'occupais pas de ma mère. Hein. Frères et sœurs, Dieu nous a tirés des ténèbres de l'ignorance, de notre marche incertaine, livrée au hasard de l'histoire. Voilà, on ne savait pas, ce n'est pas que Dieu ne savait pas et qu'il y avait un hasard de l'histoire, mais nous étions dans les ténèbres et nous ne savions pas. Et on était livrés au hasard de l'histoire en ne sachant pas voilà, ce qui va arriver, le pourquoi, le comment, qui suis-je, où vais-je, dans quelle étagère. Et quelle que soit notre place aujourd'hui, que nous sommes sortis de ces ténèbres, quelle que soit notre place dans la communauté, dans le monde, il nous appelle d'une voix forte, comme il a appelé Pierre et André, « Suis-moi, suivez-moi, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Frères et sœurs, quand on vit par la foi, on peut rencontrer toutes sortes de difficultés. Ça fait partie du programme. Des luttes, des douleurs, même de l'amertume. Mais jamais de l'oisiveté et jamais de l'ennui parce qu'on sait que notre vie est utile. Et combien de gens s'ennuient ? Il n'y a qu'à voir tout ce qu'on leur propose pour se divertir parce qu'ils s'ennuient, pour être polis. Nous savons pourquoi nous sommes sur Terre. Ça ne veut pas dire qu'on ne se distrait pas. Hier soir, on a regardé un bon film que Franck a acheté. Comment ça s'appelait déjà ? Islande. C'est formidable. C'est un film formidable, je vous recommande. On a le droit, ce n'est pas interdit, de se distraire. Mais Jésus a dit clairement, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Seulement, voilà. Pour mériter cette lumière de Dieu, je dis bien pour mériter, il y en a marre de cette histoire qu'il n'y a pas de mérite. Pour mériter cette lumière de Dieu, il nous faut décider de faire la volonté de Dieu. Décider d'aimer Dieu, de le prendre au mot et d'aimer les gens et de leur apporter Jésus-Christ. Aimer, c'est-à-dire se mettre dans l'ordre établi par Dieu. Foutaise les sentiments. Bon, vous croyez que c'est parce que j'aime la douce chaleur des 45 degrés du Burkina que j'y vais? Vous croyez que c'est parce que j'aime le taux? Vous croyez que c'est parce que j'aime tout... Enfin bon, je ne vais pas vous faire le dessin, mais... Tousser à cause de la poussière, etc., etc. Oh là là, non. Simplement, j'aime quoi? Dieu, les gens, et puis moi aussi. Moi, je suis tranquille quand j'aime Dieu et j'aime les gens. L'ordre établi par Dieu. C'est quoi l'ordre établi par Dieu? Aimer, c'est quoi? C'est pas un sentiment. Aimer, c'est obéir à Dieu, obéir à Dieu. Dieu, premier servi. Ensuite, l'Église servie, ensuite le monde servi, et ensuite moi. Et une fois qu'on a servi Dieu, servi l'Église, servi le monde, et puis nous, on arrive au bout, il reste un peu de temps pour boire une petite copette, et puis se réjouir un moment. Mais ça, c'est le planning. Alors, si tel est vraiment votre style de conduite, si tel est votre planning... Si vous vous laissez appeler par Dieu, si vous laissez l'appel de Dieu pénétrer véritablement votre cœur, alors vous pourrez dire, en vérité, je marche dans la lumière, sinon ce ne sera pas vrai. La lumière de Dieu, elle brille vraiment sur vous, au-delà de vos misères, au-delà de vos défauts, quand vous faites la volonté de Dieu. Le numéro un, la chose la principale. Et frères et sœurs, ce qui détermine notre existence, ce n'est pas que notre foi, c'est notre foi et notre vocation. On a la foi, mais ce n'est pas pour rien. Il faut savoir que ce que Dieu aime le plus, c'est l'évangélisation. Nos relations avec Dieu sont nécessairement des relations de générosité, de don de notre vie. Alors on exerce diverses professions, parmi nous il y a toutes sortes de choses, on a chacun notre famille, on a tous reçu une éducation, moi, vous n'avez pas la même que la mienne, il y en a qui disent, ta culture n'est pas la mienne, bon d'accord, t'es plus cultivé que moi, c'est génial. Et nous avons des relations de travail. Vos relations de travail ne sont pas les mêmes que les miennes. Vous avez des relations d'amitié. Moi, mais vos amis ne sont pas forcément mes amis. Je ne les connais pas tous. Vous ne connaissez pas tous les miens. Mais vous avez tous contribué à résoudre des problèmes au sein de votre entreprise, là où vous bossez, de votre famille, dans l'Église de Jésus-Christ. Et tout ça, ça n'est pas étranger au plan divin. Votre vocation humaine est une partie importante de votre vocation divine. Jésus était homme et Dieu, et nous le sommes. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est pourquoi nous devons nous sanctifier, c'est pourquoi nous devons aider les autres à se sanctifier en sanctifiant notre travail et notre milieu. Ce boulot qui occupe toutes vos journées, ça travaille votre manière d'être dans le monde, dans votre famille, dans l'Église. Il ne faut pas penser, voilà, je vais au travail comme tout le monde. Non, vous n'allez pas au travail comme tout le monde. Non. Le travail, c'est l'inévitable compagnon de la vie de tous les hommes et de toutes les femmes sur la terre. Il s'accompagne d'efforts, il s'accompagne de lassitude, il s'accompagne de fatigue, il s'accompagne de manifestations de douleur. Et tout ça, ça fait partie de notre vie présente, d'être humain, mais nous ne sommes pas qu'humains. Tout ça, les douleurs, les efforts, la lassitude, le train-train, quand ils ne sont pas en grève, le train-train, la manifestation de ces douleurs, de toutes ces choses-là, c'est ça le signe de la réalité du péché, et tout ça, ça nous prouve la nécessité du rachat par Jésus-Christ. Le travail, ce n'est pas ça la malédiction.
C'est pas un châtiment, le travail. Ils avaient reçu l'ordre de travailler avant la chute. Mais maintenant, depuis la chute, ils travaillent dans la douleur, dans la peine, avec les ronces et les machins et les patins. D'accord ? Mais le travail en lui-même n'est pas une malédiction. La malédiction, c'est travailler mal, travailler avec, sans but réel pour Dieu. C'est ça qui fait que les gens font des problèmes aux autres, comme on voit par exemple dans une certaine entreprise que nous connaissons où il y a des frères qui travaillent, où il y a des déchiens. Bonjour les déchiens, si vous écoutez le message, ça vous fera du bien. Qui ne savent pas quoi faire, alors ils embêtent le monde. C'est pas vrai ? C'est comme ça. Le travail en soi, ce n'est pas une malédiction, c'est un don de Dieu. Pour nous qui sommes chrétiens. Il n'est pas censé diviser les gens en diverses catégories selon le travail qu'ils font. Ça, c'est dans le monde. C'est dans le monde que ça se passe comme ça. Et c'est pourquoi il y a des problèmes. Dans le monde, ils considèrent certaines tâches plus nobles que les autres. Et malheureusement, dans l'église, ça vient aussi. Par exemple, à moi maintenant, depuis que je fréquente de nouveau toutes ces églises, on me donne du pasteur et du gnagni et du gnagna. C'est exagéré, c'est comme si c'était... Ça, c'est péché. C'est erreur. Ça fait le lit des Nicolaïtes. Le travail, c'est le témoignage de notre entreprise sur la création. Et le travail, c'est une occasion de perfectionner notre personnalité. Le travail, c'est un lien qui nous unit aux autres, aussi bien dans le monde que dans la communauté. Le travail, c'est une source de revenus. Je ne le mets pas en premier, voyez ? Parce que beaucoup de gens pensent, je vais gagner ma vie. Au turbin, gagner ma vie. C'est une source de revenus pour assurer la subsistance de notre famille. C'est un moyen de contribuer à l'amélioration de la société. C'est vrai ? Et en particulier, un moyen de contribuer à l'amélioration de l'Église, de la communauté, aussi bien dans le domaine matériel que spirituel. Alors pour nous, disciples de Jésus-Christ, le travail nous apparaît comme une participation à l'œuvre de création de Dieu. Il nous a dit que nous devons soumettre la création et nous devons en être les maîtres. Et voilà pourquoi chaque travail est en fait un chemin de sainteté. C'est une réalité, le travail, une réalité qui sanctifie. Mais il faut que ça soit gravé dans votre raison. Et c'est une réalité qu'on doit sanctifier. C'est-à-dire entrer dans ce travail avec la louange et non pas les murmures. Avec la foi et non pas la méfiance, etc., etc., etc. C'est pourquoi j'ai écrit ce que j'ai écrit dans la cuisine. Est-ce que quelqu'un peut me dire ce que j'ai écrit dans la cuisine ? Sur les planelles, là, sur les...
Alors, c'est écrit. On fait la vaisselle tous les jours dessous. Mais... Oui, vas-y, Samuel.
Tout ce qu'on fait avec amour prend de la valeur et de la grandeur. Parce qu'on dit, le travail, c'est la dignité de l'homme. Moi, je ne suis pas du tout d'accord. Moi, je dis, la dignité du travail se fonde sur l'amour. Voilà, ça, c'est autre chose. Le chrétien, il peut aimer. Il peut, dans son travail, parce qu'on peut, on ne travaille jamais seul, on travaille pour. Alors, on peut, quand on est chrétien, travailler avec le « tu », avec le « je », qui ont un sens, le sens de l'amour. Le disciple de Jésus, c'est un vase dans lequel le Saint-Esprit a déversé de l'amour pour Dieu et pour les autres, pour ce Dieu merveilleux qui nous ouvre le ciel, qui nous fait membres de sa famille et qui nous autorise à lui parler face à face. Imaginez. Il faut y penser de temps en temps. C'est pourquoi le disciple de Jésus ne peut pas se limiter à faire des choses, à faire des machins, à faire des trucs. Hier, je voyais, c'est hier ou avant-hier, c'est hier, je crois, Olivier qui passait la tondeuse. Bien sûr qu'il a fait une chose, mais c'est plus qu'une chose. C'est un travail pour Dieu. Si on grave ça dans notre pensée, on a tout un autre état d'esprit. Le travail, on n'est plus comme le monde. On est dans ce monde, mais on n'est pas, on réalise pas les choses comme le monde les réalise. On ne fait pas les choses pour les mêmes buts. Et regardez combien le monde peut faire de belles choses. Cette semaine, je suis allé avec Michou, les enfants, et un couple de pasteurs à Disney. Mais qu'est-ce qu'ils font bien les choses, le monde ? Ils le font pour le pognon. Eh oui, ils mettent ça en premier. Mais qu'est-ce que c'est joli ! Mais qu'est-ce que c'est joli ! Alors, le travail, il naît, pour nous autres chrétiens, de l'amour. Il est manifesté par l'amour et il s'ordonne dans l'amour. Le travail, ça devient quelque chose qu'on offre à Dieu comme on offre une louange à Dieu. C'est donc normal que Dieu nous dise, soit que vous mangiez, soit que vous buviez, quoi que ce soit que vous fassiez, faites-le pour la gloire. Faites tout pour la gloire de Dieu. Quoi que ce soit. Le travail dans le monde, ce n'est pas interdit. On a eu des chrétiens qui sont venus nous voir avec une allure de hippie des années 60, et puis ils nous ont dit que le travail, travailler dans le monde, c'était participer à ces mauvaises œuvres, et qu'eux, ils ne veulent pas travailler dans le monde. Enfin, ils fabriquent des choses entre eux, mais ils les vendent quand même au monde. Enfin, il y a de toute façon une... Mais c'est une fausse idée gravée dans leur mental. Il faut arrêter de penser comme ça. Au contraire, je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous étonner, un mot que j'emploie jamais. Le travail, c'est un apostolat. Qu'est-ce que c'est un apostolat ? Rappelez-vous que le mot apôtre, ça veut dire envoyé. On est envoyé dans ce monde. Notre terre de mission, premièrement, c'est le lieu de travail. C'est une occasion, le travail, de se donner aux gens pour leur révéler Jésus-Christ en nous et de les conduire au salut par Jésus-Christ. Paul disait que celui qui volait ne vole plus, qu'il prenne plutôt la peine de travailler de ses mains de façon à pouvoir faire le bien en secourant les nécessiteux, c'est-à-dire ceux qui volent. Tous les nécessiteux ne volent pas, il y en a qui mendient aussi. Et puis voilà. Il ne dit pas qu'ils ne volent plus, mais qu'ils se mettent à travailler pour pouvoir bouffer. Non, il pense aux autres. On travaille pour les autres. On travaille pour améliorer la société, améliorer l'Église spirituellement, mais aussi matériellement, mais tout ça pour les autres. Les gens ont besoin, la Bible nous le dit, de pain pour se nourrir, mais ils ont aussi besoin, et surtout besoin, du pain du ciel, de cette communion avec Dieu, et ça, il n'y a que nous qui pouvons leur donner. Dans le travail, qu'il soit effectué dans le monde ou dans l'Église, si vous réalisez la présence de Dieu, si vous gravez ça dans votre raison, que Dieu est présent, si vous êtes conscient de la présence de Dieu, alors la foi intervient, l'intelligence que donne la foi va intervenir, l'espérance, et puis obligatoirement l'amour. On ne va pas faire n'importe quoi quand on sait que Dieu nous regarde par-dessus l'épaule. Pensez à ce, je dis bien, précepte d'apostolat. Vous êtes envoyé par Dieu. Si vous travaillez dans cet esprit, votre vie, malgré toutes les limitations propres à votre condition humaine, terrestre, tout ça, ça sera une anticipation à la gloire qu'il y a dans le ciel. Si vous travaillez dans cette pensée-là. Maintenant, écoutez bien ça. Quand je prépare une prédication, je fais cruellement l'expérience de ma faiblesse. Parce qu'il y a des échecs qui accompagnent souvent mes efforts. Et puis, voilà, il faut que je vous prêche la parole de Dieu. Mais l'expérience de mes faiblesses, alors que je suis devant ma page, là, et que je cherche, et que j'écris, et que je réfléchis, eh bien, l'expérience de ma faiblesse, ce découragement qui pourrait fondre sur moi en disant « Oh non, je ne suis pas digne, non, je ne suis pas un bon ouvrier. » Eh bien, ça donne plus de réalisme à ma vie. Je vis parce que je sens mes faiblesses. Et puis, ça donne plus d'humilité à mon caractère, donc c'est bon. Alors, préparer une prédication, c'est un travail, mais prêcher aussi, c'est un travail. C'est un travail qui a autant de valeur que celui que vous pouvez faire. Pas plus, pas moins. Et ce travail que vous faites, il vous fait connaître aussi l'expérience de votre propre faiblesse et des échecs qui accompagnent tous les efforts que vous faites. Heureusement, de temps en temps, il y a quand même des bonnes choses qui arrivent. Hein. Il y a aussi des succès, il y a aussi des réussites. Mais quand même, on connaît bien nos limitations. Vous avez vu la belle chaise que j'ai faite, la première. Oh, elle est belle. Ah oui, elle est belle. Oh, elle est belle. Oui. Mais quel sale boulot. Quelle horreur. Dire que c'est le métier que mes parents avaient choisi pour moi. Mais quelle horreur. Hein, Christian, Sandrine, c'est qui a encore enlevé les agrafières et Franck? Mais quel métier de fou. Mais quelle horreur. Eh bien, voilà, on connaît. Alors, enlevez les agrafes avec une tendinite au poignet, vous allez voir, c'est génial. Merci les frères et sœurs de m'avoir aidé hier. Voilà, on connaît des bobos. Mais heureusement, voilà, la chaise, elle est faite. Alors, on est dans la louange, on est content. Et puis, on oublie les douleurs, et puis voilà. Et ça nous invite, les échecs et les succès, surtout les succès, à penser qu'on ne vit pas que pour nous-mêmes. On le fait pas seulement parce qu'il faut, mais parce que ça fait plaisir à Dieu et plaisir aux frères et sœurs. Et puis, quand on aura des visites, ils vont dire « Oh, les belles chaises !» Sauf une certaine personne que je connais qui va dire « Quelle horreur !» Mais vous savez ce que je vais faire quand il viendra, j'ai acheté une map monde parce que je l'ai vu à Las Vegas, des belles map monde bien brillantes, bien dorées, avec des pierres semi-précieuses et des machins. Et j'en ai acheté une, je l'ai reçue et je vais la mettre dans le salon. Comme ça, il verra moins les chaises, il verra plus. Quelle horreur! Aïe, aïe, aïe. Ça me fait tellement rire. Maintenant, je crois de tout mon cœur que Dieu n'apprécie pas une personne qui ne s'efforce pas d'acquérir la compétence nécessaire pour bien accomplir les tâches qui lui sont confiées. Il ne faut pas dire « je ne suis pas doué pour ça, je ne sais pas faire ». Il faut essayer, refaire, recommencer, persévérer. Hein? Et puis alors on améliore le geste auguste du semeur. Non ? C'est vrai. On n'est pas né semeur, on n'est pas né tapissier, on n'est pas né prédicateur, on n'est pas né plâtrier, on n'est pas né vendeur, on n'est pas né... Mais ce que Dieu aime, c'est quand il voit qu'on s'efforce d'acquérir la compétence nécessaire pour accomplir par amour pour lui, pour les autres, pour l'Église, pour le monde, les tâches qui nous ont été confiées. L'amour dans le travail, l'amour du travail bien fait, l'amour pour les gens pour qui on travaille. Vous savez, si Rachel, elle fait les frites sans amour, nous, on s'en fout, les frites, elles seront bonnes quand même. Mais elle va avoir un ulcère à l'estomac parce que... Vous comprenez? Alors, elle fait des choses et nous, on prend ça pour bon pain, enfin, bonne frite. C'est bon, on dit merci Seigneur, bénis les mains de ceux qui l'ont préparé. Et puis elle a râlé tout le temps. Eh bien, c'est elle qui se fait du mal. Elle pourrait se faire du bien, elle se fait du mal. Je ne dis pas ça pour toi, Rachel. Tu ne pètes pas en faisant des frites. Je ne crois pas du moins. Vous voyez ce que je veux dire par là, c'est que tout ce que vous faites, vous pouvez le faire d'une façon parfaite, aimer le travail bien fait, mais avec dans le cœur quelque chose qui vous ronge vous, puis dont tout le monde s'en fout parce qu'on ne le sait pas. Vous voyez ? Des fois, on entend dire que l'amour, c'est comme un élan vers l'autosatisfaction. Oui, c'est vrai. Et des gens me disent, oh, mais quel courage tu as d'aller dormir dans les cases avec les margouillas, les crapauds dans tes chaussures le matin quand tu te lèves, et les serpents, et la chaleur, et le taux surtout. Quel courage. Oh, puis qu'est-ce que tu fais du bien à tous ces gens? Oui. Et je dis, mais qu'est-ce que je me fais comme bien à moi? C'est vrai que c'est comme un élan vers l'autosatisfaction. C'est vrai que c'est un moyen de compléter égoïstement sa petite personne. Mais ce n'est pas que ça. On a le droit d'en prendre un petit bout. Mais il ne faut pas le faire que pour ça. Parce que même de ça, on se lasse. On se lasse. Une fois que je l'ai fait, je sais que je peux le faire. Et je jette. L'amour vrai, c'est sortir de soi. C'est se donner dans la continuité, la persévérance et l'amélioration. L'amour, ça apporte la joie. Par exemple, Sandrine, elle m'a dit hier que enlever ses agrafes, c'est une horreur. Mais que au bout de la 18e chaise, ça sera certainement beaucoup plus facile. Oui, je crois ça aussi, parce qu'on a un coup de main à prendre et que ça vient de, pas de plus en plus facile, mais disons, on sait, et puis on sait combien de temps ça va prendre, et puis on... Voilà. C'est se donner. L'amour, ça apporte la joie, mais c'est toujours une joie dont les racines sont en forme de croix. Parce que tout ce que... tant que nous sommes sur cette terre, il ne peut pas y avoir d'amour sans l'expérience du sacrifice, sans de la douleur. Il ne peut pas. Ça vous viendra d'un côté ou ça vous viendra de l'autre. Mais il y aura toujours une douleur. Toujours. Il faut le savoir. Mais un disciple de Jésus, sachant cela, savoure cette douleur. Ça ne veut pas dire que vous allez devenir maso. Mais cette douleur deviendra aimable. C'est-à-dire, on va pouvoir même l'aimer. Il vaut mieux le prendre comme ça. Hein. Parce qu'elle est une douleur réelle qui suppose une victoire réelle sur l'égoïsme. Un brisement. Frères et sœurs, étant donné que le travail est un apostolat, alors prenons l'amour pour règle absolue dans toutes nos actions. Sinon, nos travaux ne seront pas plus acceptables que le sacrifice de Caïn. Un travail fait avec amour, c'est toujours grand, même s'il s'agit de choses que vous pensez être sans importance. Frères et sœurs, Dieu s'est approché de nous, créatures limitées, souvent tordues, mais il nous a dit qu'il nous aimait. Il nous apprend par là que tout a de l'importance. Si nous avons de l'importance, alors tout en a. Les actions de notre vision, les actions que notre vision humaine nous fait juger comme grandes, voilà, il y a des grandes actions. Ou celles pour lesquelles on a peu d'estime, aux yeux de Dieu, il n'y a rien qui se perd. Rien qui se perd. Dieu ne dit pas, oh ben ça c'est un petit machin. Non, non. Oh ben ça ne vaut pas grand-chose. Dieu ne méprise personne, Dieu ne méprise aucun travail. Et nous, il nous faut veiller. Nous sommes invités, nous, à n'oublier aucun de ses bienfaits. Lui n'oublie aucun de nos bienfaits. Mais nous devons aussi nous souvenir de ses bienfaits. C'est ça la communion avec Dieu. Remerciez Dieu pour la personne que vous êtes, pour ce qu'il vous a donné de faire. Prenez soin de vous, mais avant, prenez soin de son œuvre. Que Dieu soit béni. Amen. Jésus, je te prie, pendant que les musiciens s'approchent, de nous garder toujours avec une bonne volonté et que ce matin nous puissions renouveler notre engagement de te servir avec joie et humilité. nous rappelons toujours que tout sur cette terre est accompagné de douleur. Merci Seigneur parce que ce matin tu nous dis que tu nous aimes et que tu apprécies ce que nous faisons. Je te prie Seigneur que tu nous rendes encore capables de plus et que plusieurs ici prennent la décision de s'occuper premièrement de ton royaume et de ta justice, de l'évangélisation. Merci Seigneur Jésus de mettre ça dans le cœur de mes frères et sœurs, afin que notre communauté soit une communauté spirituelle, qui agit selon l'Esprit, au nom de Jésus-Christ. Avec les talents de chacun et de chacune, nous venons devant toi maintenant, mon Dieu, et nous nous consacrons pour ta gloire, pour le bien de cette création que tu as commencée et dans laquelle nous pouvons prendre part. Merci Jésus. Amen.
On chantera après. Et il faut l'enregistrer. Et s'il est bien, s'il n'y a pas. S'il est bien, sur l'application, directement ensuite, sans blanc, sans mettre. D'accord ? Ah, merci.
Kill.